Alors, je m'appelle Martine, je suis née en 1951. J'habite donc à Barré, dans cette maison familiale, depuis 1981. Alors, je suis née à Grasse, j'ai fait mon école primaire à Cédron, puis mon secondaire à Grasse, où mon grand-père, qui était courtier en lavande, travaillait avec les parfumeurs de Grasse et avait acheté une petite maison. Donc, j'ai fait mon secondaire là-bas. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Nous nous sommes installés à Grenoble, où j'ai repris mes études, que j'avais arrêtées après le bac.
Les études de quoi ?
De psycho. Bon, donc là, on est à Grenoble. Et puis, on divorce. Et je reviens au Bercail. Je reviens d'abord à Cédron. Puis un an après à Barré, le temps de faire quelques travaux dans la maison. Et je m'installe donc en 81 à Barré. Donc à l'époque, je suis fiancée et on décide de se marier. Et entre-temps, avec ma maman et mon mari, oui, parce qu'il y avait cette maison et qui était vide, enfin inoccupée, oui. Et José, mon mari, était instite. Moi, à l'époque, j'étais étudiante. Donc, on a eu cette idée. Ma mère savait bien cuisiner. On a dit pourquoi on n'ouvrirait pas une auberge pour arrondir les fins de mois, le reste de l'année. Et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. Ma mère est en cuisine, mon mari est à la plonge, à la vaisselle, et moi, je suis au service. Et puis, il se trouve que l'auberge marche bien, le restaurant marche bien. Les gens viennent de Carpentras, etc., d'un peu loin, quoi. Ma mère s'est spécialisée dans les gratins, toutes sortes de gratins de légumes, les viandes en sauce, l'éternel gigot, etc., les desserts sont faits par mon père qui est pâtissier à Cédron.
Et les légumes et les viandes, ils venaient d'ici ?
Ah oui. Ben oui, parce qu'à l'époque... Puis à l'époque, on ne mangeait pas comme maintenant. Parce que je vois le dimanche, on arrivait à servir 60-70 couverts tous les dimanches, à midi. En semaine, c'était beaucoup plus calme. Mais par exemple, le soir, on ne travaillait pas. C'est vrai que dans les années 70... On venait manger à midi et pas tellement le soir.
Du gratin de pommes de terre de ta maman.
Voilà, le gratin
dauphinois. Jamais mangé un gratin dauphinois aussi.
Oui, c'était pas un gratin dauphinois d'ailleurs, pas du tout, mais on appelait ça comme ça. Il y avait le gratin d'aubergine que les gens adoraient, le gratin de courgette, le gratin de tous les légumes, de chou-fleur. Mais c'était toujours des gratins servis... dans des petits plats individuels, enfin individuels, non, pour un, pour deux, pour trois. Parce que du temps de l'auberge, on a quand même passé de très bons moments. On faisait aussi pension de famille l'été. Alors c'était assez cocasse parce que mon mari et moi, par exemple, on a planté une tente derrière la maison pour libérer notre chambre. Maman et puis un gars qui travaillait avec nous. Et ma sœur, non, ma sœur venait pas beaucoup. Enfin, et une autre fille qui nous aidait aussi dormait dans le grenier. On avait libéré toutes les chambres, quoi. Et un jour, on avait un couple qui était venu passer 8 jours, disons bien, quoi. Et lui était inspecteur des impôts, madame. Et un jour, madame reste avec nous l'après-midi et on se met à discuter. Et elle nous dit, oh là là, il est parti, ça fait du bien, il est allé faire un tour. Je lui dis, pardon, elle me dit, oui, mon mari. Ah oui, elle nous dit, excusez-moi l'expression, mais je vais vous le dire, je me lâche aujourd'hui. C'est un emmerdeur. Vous savez, l'autre soir, quand vous avez entendu un grand bruit, c'était 10h du soir. On vous a dit qu'il avait fait tomber la valise. Mais c'est pas la valise qui l'a fait tomber. C'est moi. Il m'a fait tomber du lit. Parce que le soir, il met le traversin au milieu du lit pour pas qu'on dépasse. Et un jour, elle s'aperçoit qu'il y a une chambre qui s'est libérée dans la journée. Dans la nuit, elle dit, elle s'est libérée, il n'y a personne. Je vais aller dormir dans cette chambre et je dirai à Mme Boyer demain qu'elle m'excuse, mais voilà. Seulement, entre-temps, il y avait Jean-Marc, celui qui nous aidait à servir, avait eu la même idée. Il avait dit à maman, je vais lâcher le grenier ce soir, je vais dormir dans la... Maman lui avait dit oui. Si bien que cette dame est arrivée en chemise de nuit et a poussé un hurlement quand elle s'est mise dans le lit, parce qu'elle n'a même pas éclairé, s'est mise dans le lit et elle a senti, ben, évidemment, qu'il y avait Jean-Marc. C'était drôle, ça, c'était marrant. Puis quand j'y pense, c'est vrai que les gens étaient... Maintenant, jamais tu irais dans une auberge où tu n'as pas ton WC et ta douche. Là, il y avait 6 chambres, un WC, une salle de bain très correcte avec la douche, la baignoire. Mais bon, c'était comme ça, c'était pour tout le monde, les gens qui s'arrangeaient entre eux. Nous, c'était sympa, ça.
Ah, oui, c'était une autre ambiance.
Ah oui. On ouvrait de Pâques à la Toussaint, à peu près. On ne m'appelle plus bien. Et après, bon, moi, je repartais sur Grenoble à la fin de l'été. On descendait le dimanche jusqu'à Toussaint, parce qu'elle n'ouvrait que le dimanche, en fin de saison. On venait aider le dimanche de Grenoble, on repartait. Et après, mes parents faisaient le nougat. Le nougat, c'est en décembre. C'est pour les fêtes de Noël. On mange du nougat. On travaillait que pour Noël, d'ailleurs. Enfin, on travaillait 6 mois, mais... Ça fait partie des 13 desserts, quoi.
Ton papa pâtissier ?
Alors, mon papa était donc pâtissier à Cédron, et lui, il nous faisait les entrées comme les tartes au jambon, et puis les desserts, toutes sortes de gâteaux.
Qu'est-ce qu'il a fait à Pâques ?
Bon, il voulait des grandes plaques de chocolat sur des noisettes, mais ça, bon, c'était pas pour l'auberge, c'était pour le petit magasin, la petite pâtisserie qu'ils avaient à Cédron.
Ils ont fait aussi du nougat.
Oui. Oui, en 62, ils ont créé une petite fabrique de nougat que j'ai repris par la suite après le décès subi de ma maman en 93.
Mais comment, qu'est-ce qu'il faut faire là si on a...
Il faut d'abord du matériel, parce que pour le nougat blanc, c'est compliqué, il faut une cuve à double fond. Bain-marie, etc. Sinon, il faut du miel. Comprenez évidemment un miel de pays. Il faut des amandes qui n'étaient pas de Provence, par contre. Hein. À l'époque, il n'y en avait pas tellement.
Oui, c'est ça.
Oui, parce qu'au début, on les prenait chez Cesse. Mais là, j'étais jeune. Je devais avoir. En 62, j'avais 12 ans. 11 ans. On les prenait chez Cesse et je voyais ces dames qui les cassaient, les triaient. Puis bon, après, on s'est développé et on n'achetait plus les amandes par 50 kilos comme on faisait au début. On les achetait par tonne parce que il y a eu une période, mais après la mort de maman, dans les années 95-96, où on travaillait avec les grandes surfaces en gardant la même qualité de nougat, je tiens à préciser. Et des grandes surfaces comme Auchan, qui à eux seuls faisaient 15 tonnes de nougat.
Et le miel, il venait d'ici ?
Oui, la plupart. Puis après, non, si, on a toujours eu quand même du Provence, et puis après du Toutefleur, il n'y avait pas que du lavande. Hein.
Il faut des amandes fraîches ?
Oui, fraîches, mais on les fait griller. On avait un torréfacteur, quoi. On fait griller les amandes avant.
Oui, et après, tu avais installé la fabrique à la sortie de Cédron, dans la petite zone artisanale.
Oui, quand maman est décédée.
Parce qu'avant, le labo était...
Oui, et c'était devenu beaucoup trop petit.
Oui,
et...
Je vais te dire.
On emballait dans la salle à manger de la grand-mère. Mon père fabriquait dans ce petit... atelier minuscule, là. Et donc, après, en 93, on est allé s'installer là-bas. C'était immense. Et puis, il y avait une chambre froide pour refroidir le nougat, parce que sinon, il fallait le mettre dans la cour, à Cédron, le surveiller. Oh là là. Là, on revivait, quoi. Et le téléphone sonne, je décroche et on veut parler à Madame Boyer André, maman. Donc. Alors je dis à maman, c'est pour toi. Et maman s'assoit sur... c'était un peu long, alors elle était debout au début. Et puis, il y avait deux cartons derrière elle. Et elle s'assoit sur ces cartons. Et petit à petit, on voyait les cartons qui s'affaissaient, parce que les cartons étaient vides, enfin, à moitié vide, à moitié plein, quoi. Et elle a continué, parce que c'était quand même important comme communication, elle a continué assise par terre avec le téléphone à l'oreille, quoi. Ça, c'était marrant. Très digne, mais assise par terre.
C'était de famille de faire le yoga chez Boyer.
Oui.
C'était le grand-père ou...
Rasso.
Ouais. Oui.
C'est mon grand-père qui l'a créé. Déjà son père, peut-être le grand-père. Non, c'est mon grand-père. C'est mon grand-père qui a créé la recette de ce nougat. Et à sa retraite, bon, ben, il a cédé à ses enfants, quoi.
Oui, à ses deux fils.
Ben, disons à l'aîné, quoi.
Ouais.
Et mon père, lui, s'est installé, du coup, à Cédron. J'ai 73 ans, donc j'en ai fait jusqu'à 63 ans. Il y a 10 ans qu'on a arrêté, à peu près. Mais bon, on en faisait beaucoup moins. Beaucoup moins.
Mais quand même. Quand
je faisais... Parce qu'au champ, on nous avait laissé tomber, là, les grands magasins. Et là, d'abord, on a déposé le bilan, après. Hein. On a tenu, avec ma nièce, j'ai tenu... Hein. Mais là, il y avait pratiquement plus de personnel. Il y en avait deux à la fabrique, et ma nièce et moi. Ça a été dur. Hein.
Bon, c'était une institution, le nougat Boyer à Cédron.
Mmh. Ah oui, les gens venaient de loin acheter. Hein.
Et quelle était la grande différence entre le nougat que vous avez fait et tous les autres qui étaient faits industriellement? Quelle était la différence?
La différence, c'est que nous, on mettait... moins de sucre et plus de miel, quoi, parce qu'il y a beaucoup de nougat où il y a une quantité énorme de sucre et pas beaucoup de miel. Bon, dans les Montélimar, il y en a du très bon, bien sûr, mais il y en a plein, c'est du sucre, quoi, c'est pas du miel.
Donc il y a du savoir-faire aussi.
Oui. Donc les ingrédients, c'est amandes, miel, sucre, sirop de glucose, blanc d'œuf et parasite.
Pas brûler les amandes.
On grille les amandes.
Griller les amandes.
On fait chauffer du miel. On fait chauffer le sucre. Il faut qu'il soit en ébullition qui monte à peu près à 120 degrés. Après, on met ça. On met le miel dans une cuve à double paroi, la bain-marie, qui chauffe par-dessous. On met le miel, puis après, on rajoute ce sucre en ébullition. Puis on met les amandes et puis on laisse cuire. Si c'est trop cuit, vous ratez. Si c'est pas assez cuit, ça arrive aussi. Vous ratez. C'est rare, mais ça arrive.
Et là, vous perdez. La différence entre le nougat blanc et le nougat noir.
Ah oui, ben, le nougat blanc, donc, c'est cuit au bain-marie. C'est, hein. Alors que le nougat noir, ça, c'est n'importe qui peut le faire. Hein. Ah, on a une cuve directement sur la flamme. On met le miel, on met le sucre et on rajoute des amandes. Et ça devient noir, évidemment, hein, puisque la blonde avec ses robins mari. Ça, c'est très facile à faire.
Tu es contente d'être revenue à Barré, même en retraite, enfin.
Ah oui.
Oui.
Ben, c'est un choix que j'ai fait. Hein. Mais bon, j'ai eu la chance de trouver du boulot aussi, parce que le nougat, c'était saisonnier au début. Puis il y avait une boyauderie qui s'était montée à Cédron.
Oui.
Et j'avais été prise comme chef du personnel. Alors ça m'a fait franchir un peu le pas. Après, avec maman, toujours, on s'est occupé de handicapés mentaux. Alors moi, comme j'avais fait psycho, ça m'avait bien plu, ça. Et voilà, ça m'a permis de rester ici, quoi. Et puis bon, après, on a repris le nougat où on l'a développé. Et là, je faisais plus que ça, quoi, plus que le nougat. Non, puis habiter ici, je suis ravie d'habiter ici, moi. Ouf. Le vent tout, des couchers de soleil tout, magnifiques...
Il y a une époque où il n'y avait pas une lumière à Barré le soir.
Ben si, parce qu'il y avait maman et moi.
Et une seule.
Et il y avait Liliane. Liliane, la Belge. Je me souviens que là, on était vraiment que toutes les trois. Pendant un an ou deux, oui. Parce que maintenant, on est quand même on est 15, je crois. Bien, facilement. Puis même avec maman, on n'était pas tout le temps là.
Une vie très simple.
Oui, non, mais moi, en 81, c'était quand même pas comme dans les années 60 ou 70, quoi. Puis avant, mais alors là, bon, j'étais gamine. Parce que j'adorais venir ici, donc j'étais à l'école à Cédron. Et je montais voir, enfin, je montais dans cette maison, chez mes arrière-grands-parents. Bon, qui ne travaillaient plus, mais il y avait la sœur de ma grand-mère, ma tante, qui s'occupait de ses parents et qui avait encore une activité avec les chèvres. Et je sais que je montais, à l'époque, c'était le jeudi. Hein. Donc, le mercredi soir, je montais avec monsieur Conil Ferriol, qui faisait la tournée des fermes pour ramasser les fromages, et il me laissait ici, chez mes arrière-grands-parents. Alors j'adorais ça, parce que je descendais avec ma tante, traire les chèvres, la regarder traire les chèvres, et puis j'adorais mes arrière-grands-parents, quoi. Bon, ça c'était donc dans les années 60, même 58, j'avais 6 ans.
Le paradis de jeunesse.
Ah, ça j'aimais, j'adorais venir ici.
Et vous aviez toujours rêvé de revenir vivre ici?
Non.
Non?
Ça a été... Non, parce que je n'aurais pas divorcé, je pense que je ne serais pas revenue. Je serais venue l'été, bien sûr, mais j'aurais fini mes études de psycho, j'aurais travaillé à Grenoble, sûrement, comme mon mari. Hein. Non, ça a été... Mais je suis très contente d'être revenue. Très contente.